Déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À Déroulement du livre aujourd'hui, nous vous présentons une émission animée par Sœur Catherine Aubin, dominicaine théologienne, professeure, prédicatrice et auteure. La série s'intitule « Prier avec son cœur, la joie retrouvée ».
Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Nous allons continuer cet enseignement sur la prière avec le cœur, la joie retrouvée. Pendant la première rencontre, nous avons parlé de ce qu'est la joie, de la mémoire de la joie, de la racine de la joie comme une eau claire. Puis nous avons évoqué la joie et l'amitié, puisque il y a dans l'amitié cette conviction d'être aimé dans toutes ses limites et de toucher justement à une joie profonde. Au cours de la deuxième rencontre, nous avons parlé de la joie dans le présent, que cet ici et maintenant nous permet d'accueillir la présence. Et accueillir la présence, c'est être avec lui. Car la source de la joie, c'est vraiment la présence de Jésus. Il nous le dit dans Saint Jean, « Je veux que votre joie soit complète ». Et enfin, dans la troisième rencontre, nous avons parlé de la joie dans l'attention et dans l'intention. L'intention qui a un pouvoir de transformation, à savoir si je sais pourquoi, dans quel est le sens de ma journée aujourd'hui, je ne me laisse pas rattraper par mon passé, par l'éparpillement, par la superficialité. Je m'enracine dans l'intention d'être avec lui, et je m'enracine et je reprends contact avec celui qui veut être au contact avec moi, c'est-à-dire le Christ. Nous abordons cette quatrième rencontre avec un sujet plus difficile, ou du moins moins séduisant, à savoir quels sont nos obstacles de la joie. Quels sont nos obstacles à la joie? Et j'en citerai deux. Il y en a beaucoup d'autres. Je citerai d'abord la peur et l'oubli. Bien évidemment, vous allez me dire, mais la tristesse n'est-elle pas un obstacle à la joie? Oui, c'est un obstacle à la joie, mais ça sera l'objectif d'une autre publication à propos des larmes de la tristesse et des larmes de la componction du cœur. Alors la peur, de quoi s'agit-il quand on parle de la peur? La peur, c'est une émotion que nous connaissons tous. Elle s'enracine au plus profond de nous et elle demande à être apprivoisée. La peur, c'est vraiment ce qui nous constitue tous et toutes de façon universelle. Nous sommes constitués de peur. Et Jésus, jamais dans l'Évangile, ne nous reproche d'avoir peur, il nous demande d'avoir confiance. Ça, c'est un enseignement qui est très très important. Nous pouvons vivre la peur et la confiance en même temps. Alors, quelle est cette peur des origines? Elle remonte à celle d'Adam, c'est-à-dire la peur de Dieu. C'est expliqué dans Genèse 3, ce récit où le serpent va déformer la parole du Seigneur. Ève va croire cette parole et elle va avoir peur de manquer. À la suite d'un interdit, elle va avoir peur de manquer de tout. Et donc, eh bien, le serpent a réussi. Il fait de Dieu un rival. Et c'est quelque chose de très ancré chez chacun de nous. Nous faisons un Dieu à notre image, et c'est-à-dire un Dieu qui rentre en compétition et qui pourrait nous prendre des choses, nous demander des choses que nous ne sommes pas capables. Ça, c'est une peur qui est viscérale et qu'il nous faut apprivoiser, qu'il nous faut travailler au plus profond de nous, parce que notre Dieu n'est pas celui-ci, n'est pas le Dieu de la peur. L'autre peur qui nous régit, c'est la peur des autres. La peur qui nous fait croire que nous ne sommes attendus au tournant, comme on dit en français. Qu'est-ce qui va m'arriver ? La peur qui va produire chez moi de l'anesthésie, de la paralysie, du blocage et surtout de la projection. Comme j'ai peur, je vais projeter sur l'autre ma peur. Et donc, ça va amplifier la peur. La peur de ne pas être aimé. Alors, du coup, comme il y a ce phénomène de projection, on va voir chez l'autre des marques de désapprobation. Si on a la peur d'être rejeté, on va entendre les mots qui nous font croire que nous sommes exclus. Qu'est-ce qui va nous sauver dans cette peur ? C'est un certain pragmatisme. Une porte qui claque, c'est une porte qui claque, point final. Ce n'est pas mon voisin, ma voisine, mon ami qui a fait exprès de claquer la porte pour me vexer. Vous voyez, le problème, un des problèmes fondamentaux dans notre peur des autres, c'est la projection. C'est-à-dire que si j'ai très peur des autres, je vais projeter sur lui ou sur elle le fait qui va me faire des choses qui vont renforcer cette peur. Une des conséquences de cette peur, ça va être l'aveuglement et la surdité. Et-il Soum, encore une fois, est un grand maître à ce niveau-là. Elle a eu peur, elle a été, vous savez, enfermée dans les camps de concentration. Et elle dit cette chose, cette peur de ne pas tout avoir dans la vie, c'est elle justement qui nous fait tout manquer. Je répète parce que c'est vraiment important, cette peur de ne pas tout avoir dans la vie, c'est elle qui vous fait tout manquer. Elle vous empêche, dit-elle, d'atteindre l'essentiel. Une rage de possession, continue-t-elle, vient de me quitter. Désormais, libre, je ne veux plus rien posséder. Désormais, tout m'appartient et ma richesse intérieure est immense. Je n'ai plus peur. Donc, la peur de manquer m'aveugle. Elle dit plus loin, lentement, j'ai grandi dans l'attente des moments que nous vivons, c'est-à-dire les moments de camp de concentration. Je ne ressens aucun affolement. Je continue à considérer toute chose avec clairvoyance. Ça, c'est un grand enseignement. Moins nous avons peur, plus nous pouvons voir. Et Et-il Soum nous apprend à dompter cette peur de manquer, cette peur de recevoir des coups, cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de croire que l'autre va m'enlever quelque chose. Et les pères de l'Église disent que la racine de toutes les maladies spirituelles, c'est la peur de la mort. Tant que nous n'avons pas apprivoisé la mort dans notre vie, cette peur de la mort va nous rendre esclaves, va nous rendre sourds et aveugles. L'autre obstacle à la joie, après avoir évoqué la peur, c'est l'oubli. L'oubli, selon tous les pères de l'Église, et particulièrement Saint Jean Damascène, l'oubli est une des maladies spirituelles. Il en cite trois, l'oubli, la négligence et l'ignorance. Saint Bernard, plus tard, dira que l'oubli, c'est le grand ennemi de la vie spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible ? On trouve cet appel incessant à la mémoire. Rappelle-toi, souviens-toi. Souviens-toi, Israël, Shema Israël. Écoute, souviens-toi, n'oublie pas, ne m'oublie pas, rends-moi présent. Je pense qu'on n'a pas fini d'entrer dans la profondeur de cette invitation du Seigneur, pratiquement, j'ai envie de dire, à chaque page de la Bible, Shema Israël, souviens-toi Israël, n'oublie pas quoi ? N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qui est Dieu, n'oublie pas qui est Dieu dans ta vie. N'oublie pas ce que les autres ont fait dans ta vie de bien. Bien évidemment, il s'agit d'une invitation positive. Nous reste dans cette mémoire positive. C'est un défi. C'est un défi et c'est une détermination dans un ancrage profond. Que se passe-t-il donc, posons-nous la question, dans notre mémoire, que se passe-t-il pour que nous oublions que nous sommes attendus et que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est très important de se souvenir de ça. La mémoire de nos origines, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous met au contact de la joie et de l'action de grâce. La mémoire de nos origines, elle nous met au contact de la gratitude et de la bénédiction divine. La mémoire de nos origines, elle nous met au contact de ce que le Seigneur a fait et donc qu'il continuera à faire. Saint Paul nous dit « Les dons de Dieu sont sans repentance ». Le Seigneur nous confie ce qu'il est. Dans la parabole des talents, on dit que le maître donne 5 talents, 2 talents, 1 talent. En fait, la traduction grecque de cette parabole nous dit que le maître confie ses biens propres. Et ça, c'est très important dans la mémoire de la joie. Nous sommes destinataires de ce qu'est Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes porteurs d'une étincelle divine, unique, exceptionnelle, que le Seigneur a posée en nous. Et la mémoire, faire activement travailler sa mémoire, c'est se remettre au contact de cette part de Dieu que le Seigneur a déposée en nous à notre naissance, que le Seigneur a continué de déposer en nous par le baptême, par la confirmation, et qu'il continue au fur et à mesure par l'Eucharistie. Nous sommes les destinataires d'une part de Dieu. Il y a des personnages dans l'Évangile qui vont nous aider à nous situer par rapport à la mémoire. Et je citerai une parabole qui est extrêmement éclairante et je dois dire qu'à partir du moment où j'ai étudié cette parabole, c'est une parabole qui me revient continuellement, c'est la parabole du pharisien et du publicain. On la trouve dans Luc au chapitre 18. Deux hommes montent au temple, l'un est pharisien, l'autre publicain. Le premier, le pharisien, se tient debout. Il prie en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Et etc., etc. Le publicain se tient à distance, n'ose pas lever les yeux, se frappe la poitrine et dit, « Mon Dieu, montre-toi favorable. » Ô pécheur que je suis, prends pitié de moi. » Jésus dit, je vous le déclare, le publicain, lui sera élevé, l'autre sera abaissé. Cette parabole, elle éclaire nos deux types de fonctionnement. Il ne s'agit pas de se comparer ni aux pharisiens ni aux publicains, il s'agit bien d'être clairvoyant, nous sommes et pharisiens et publicains. Cette parabole n'est pas non plus pour confronter deux types de prières, l'une qui serait meilleure que l'autre. Ce qui est mis en évidence, ce sont deux sortes de comportements qui se réveillent, on peut dire, ou qui se révèlent lors d'un face-à-face avec qui ? Avec la lumière du Seigneur dans la prière. On pourrait dire que la parabole du publicain et du pharisien, c'est un même homme qui change au-dedans de lui, dans son intériorité. Un pharisien qui devient publicain, ou pour le dire autrement, notre pharisien intérieur à qui est donné la possibilité de devenir un publicain intérieur. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'évangéliste ? Il introduit deux personnes, des personnes par le pharisien qui sont ciblées comme ayant une bonne conscience et ayant un peu le mépris d'autrui, persuadées en eux-mêmes d'être justes. Donc c'est à cela que Jésus s'adresse. Jésus s'adresse à des gens qui sont persuadés en eux-mêmes d'être justes. Et vous voyez bien que quand Jésus s'adresse à ces personnes-là, c'est à nous qu'il s'adresse, parce qu'il y a toujours en nous cette petite conviction que oui, bah oui, on est un peu juste quand même. Le pharisien, qui est-il ? C'est l'homme pieux et moral, c'est l'homme pur, on va dire, qui n'accepte aucun laxisme ni aucune dérive politique. Le pharisien, c'est l'homme qui inspire le respect. Le publicain, c'est qui ? C'est celui qui est rejeté. Rejeté par les Juifs, pourquoi ? Parce qu'il prend de l'argent et il prend les impôts de ses frères. Donc, un publicain qui évoque l'immoralité et la honte, un pharisien qui symbolise l'intégrité. Alors, que se passe-t-il dans cette parabole ? L'attention se porte d'abord sur le pharisien, une attitude debout qui n'a rien d'exceptionnel, et une action de grâce. La première chose qu'il faut noter, c'est que il va répéter « Je te rends grâce ». Je ne suis pas, je jeûne, je paie la dîme, je me procure. On se dit avec un peu d'humour, si seulement dans sa prière il s'était arrêté à « Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce », eh bien c'était bon. Non, il a fallu quoi ? Il a fallu qu'il mette en évidence deux aspects, il est différent des autres, et tout ce qu'il fait mérite quelque chose. Il y a lui, et les autres hommes. Le publicain, lui, il est à distance, et ça c'est une attitude qui peut nous révéler à la fois quelque chose de psychologique, mais aussi de théologique. Il est à distance, il prend conscience de qui il est. La distanciation dans la vie spirituelle, c'est ce que va nous permettre l'attention. C'est ce que j'ai expliqué dans la dernière rencontre, dans le dernier enseignement. L'attention va me permettre la différenciation et surtout la désidentification avec ce que je suis. Et là, le publicain n'est pas identifié avec ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui est parfois immoral. Il se frappe la poitrine. Qu'est-ce que c'est que ce geste ? Ce geste, on le retrouve chez saint Augustin. Que signifie le geste de se frapper la poitrine ? Il dit, saint Augustin, nous indiquons que nous broyons notre cœur pour qu'il soit gouverné par Dieu. Qu'est-ce que le publicain dit ? Ô Dieu, prends pitié de moi, pécheur. En d'autres termes, il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi. La voilà la mémoire. Souviens-toi de moi. Sois favorable envers moi qui suis fautif. Montre-toi accueillant à mon égard. Qu'est-ce que le publicain nous dit ? Il nous dit qu'il ne connaît pas d'autre secours que la grâce de Dieu. Sa prière n'est pas une complaisance. Thank you. Sa prière n'est pas une complaisance en lui-même, n'est pas une complaisance dans la faute. Que fait le publicain ? Il part de sa vulnérabilité. Isaac le Syrien nous dit « Heureux celui qui connaît sa vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que, à partir de sa vulnérabilité, il va enfin commencer à prier. » Eh bien, c'est l'enseignement du publicain. Il ouvre sa blessure, il la regarde en face, il reconnaît quoi ? Le manque. Il reconnaît que il n'est pas comblé, il manque d'estime des autres, il est seul. Et il va prier à partir de ce lieu-là. Il va prier à partir de cet espace-là. Et c'est pourquoi sa vie intérieure va s'ouvrir à une rencontre, va s'ouvrir à un appel. Qu'est-ce que cette parabole nous dit encore ? Que ces deux hommes cohabitent et prient en nous, nous qui sommes le temple de Dieu. Jésus met en contraste deux types de comportements. L'un rend grâce de ce qu'il est, sa vertu intellectuelle, manuelle, relationnelle, qui le distingue. L'autre aspire. Aspire à quoi ? À ne pas être seul, à être aimé. Et c'est le publicain qui va nous montrer ce chemin du cœur. Il va nous montrer où il est et où nous devons être quand nous prions. Bienheureux celui qui connaît sa vulnérabilité. Le point commun entre ces deux hommes, l'un et l'autre, ont trouvé le chemin de l'intériorité. Le pharisien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rencontré un Dieu à son image. Il s'en sert d'une caisse de résonance pour sa propre gloire. Il y projette tout ce qu'il voit, qui le fait grandir à ses propres yeux en abaissant les autres. Le publicain, lui, crie sa détresse. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Dans la prière, on parle à Dieu, mais parler à Dieu, ce n'est pas forcément le rencontrer. C'est pourquoi la prière apparaît dans cette parabole comme le révélateur d'une attitude devant Dieu et devant les autres. Les publicains et le pharisien nous renvoient ce que nous sommes, des êtres sociaux, qui avons un masque, qui parfois sommes enfin capables de reconnaître le manque qui nous habite. Ces deux personnages, c'est les deux faces de chacun de nous, de chacun des croyants que nous sommes. La face honorable, celle qu'il est possible de montrer aux autres, et la face obscure, celle qu'il n'est nécessaire de cacher. Et l'Évangile ajoute, c'est la face obscure qui est la plus authentique, c'est la face obscure qui est la plus proche de notre nature profonde. Jean Vanier nous dit un enseignement très très fort, et c'est ce que vit le publicain. Il nous dit la grande tentation de l'être humain est d'être séduit par la puissance et de refuser la communion avec sa vulnérabilité et sa petitesse. C'est exactement l'enseignement de Isaac le Syrien. Heureux qui connaît sa vulnérabilité. Et Jean Vanier explique par des comparaisons. Il dit que tout ce qui est né de beau sur terre vient de quelque chose de obscur. Et il prend comme exemple le vin et l'alcool naît de fruits fermentés. La pénicilline est née de la grande graine. Les meilleurs champignons, où naissent-ils ? Sur le fumier. Tout ça, ce sont des exemples pour nous dire que le chemin vers la prière du cœur, vers le cœur, le chemin vers nos divisions intérieures se réalise dans la mesure où nous entrons en communion avec ce que nous voulons pas voir, avec cette propension que nous avons à dire ça, cette vulnérabilité-là, je veux pas l'exposer. Je veux pas la révéler. Si nous entrons là, si nous nous réconcilions avec cette face obscure, à ce moment-là, nous entrons dans la vraie prière du cœur et nous entrons dans la joie. Cette descente dans cette ténèbre, dans ces peurs, c'est ce qui nous est demandé, c'est une visite. C'est une visite qui va nous faire crier en vérité. C'est ce lieu intérieur, il va me permettre de ne pas faire de projection sur autrui. Cette visite dans mes lieux intérieurs obscurs va me permettre de ne pas être dans l'accusation, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la projection, de ne pas être dans la survalorisation de l'autre. Vous voyez, être dans ce lieu-là, c'est être dans un lieu de vérité et d'authenticité. Nous parlons de la mémoire, de l'oubli comme obstacle à la joie, et il y a quelqu'un qui ne nous oublie jamais, c'est Dieu lui-même. Isaïe 49, « Vois, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » L'oubli de Dieu, c'est un oubli qui nous déstructure en profondeur. L'oubli de Dieu va nous emmener vers la tristesse, vers la sédie, vers même une certaine colère et une certaine accusation de ce qui est. Prenons comme exemple les deux larrons, qui sont chacun à côté de la croix du Christ. Le bon larron a vu le Christ pendant toute sa passion et il a fait fonctionner sa mémoire. Il a fait fonctionner sa mémoire, la mémoire de qui il est et de ce qu'il a fait et de qui il a devant lui. Et cela lui fait dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. L'autre larron n'a rien vu, n'a pas fait fonctionner sa mémoire, ni sur lui-même, ni sur ce qu'il vient de voir du Christ dans sa passion. Et du coup, il est dans l'accusation, il est dans la projection, il est dans un lieu où il dit « Descends de la croix, puisque tu es le Fils de Dieu ». Vous voyez, c'est très important de faire fonctionner sa mémoire. Et notre Dieu est un Dieu, et là on le voit dans cet épisode-là, qui est constamment en train de penser à nous. C'est la grande expérience de Catherine de Sienne. Tu es celui qui est, et on pourrait paraphraser en disant « Tu es celui qui pense à nous, et moi je suis celle qui n'est pas », c'est-à-dire « Je suis celle qui doit sans cesse me souvenir de toi ».
À déroulement du livre, vous venez d'entendre Sœur Catherine Aubin, dominicaine, théologienne, dans une série intitulée « Prier avec son cœur, la joie retrouvée ».